Alors juste pour reprendre un petit peu le contexte, et là je remonte un petit peu en arrière jusqu'au chapitre 11 de Marc. Et dans le livre du prophète Agée, il y a une prophétie, Agée l'avait annoncé, l'avait dit que l'Éternel allait remplir de gloire le second temple, donc le temple qui avait été construit lorsque les Israélites étaient rentrés d'exil. Effectivement, cette gloire est rentrée dans le temple en la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est dans les chapitres 11 et 12 de Marc. Et en fait, Jésus était venu pour rappeler ce qu'aurait dû être le vrai culte, pour confronter les mauvais bergers d'Israël. Et puis, on a vu aussi Jésus annoncer à ses disciples que le temple serait bientôt détruit, qu'il y aurait des temps troublés avant son retour. C'est en Marc 13. On l'a vu enfin instaurer la nouvelle alliance lors du repas de la Pâque, alliance qui sera effective quand il aura versé son sang, pour beaucoup, comme il l'annonce. Et effectivement, là, on y arrive, l'heure vient, il y a les hommes qui s'en prennent à Jésus, et les Écritures qui s'accomplissent. Dieu est souverain, les Écritures s'accomplissent. Donc on a vu que Jésus avait été trahi par Judas, qu'il avait été abandonné de tous, y compris ses disciples. On l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec Georges, il a même été renié par Pierre. Il a fait face à un procès inique, injuste. Il a affirmé devant les autorités juives, oui, il est bien le Messie de Dieu. Et puis ensuite, il comparaît devant Pilate. Et puis après, une dernière phrase, on le voit se taire, on ne l'entend plus. Ça, c'est le contexte général. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose. C'est que dès le début du chapitre 15 de Marc, on a une expression qui apparaît et qui revient plusieurs fois. Et cette expression, c'est « roi des Juifs ». On la voit dans Marc 15, au verset 2, au verset 9, au verset 12. Et encore aujourd'hui, on va la voir plusieurs fois. Et donc, on peut légitimement se demander pourquoi Marc, il insiste sur cette expression de roi des Juifs. Alors, de prime abord, j'observe deux raisons. La première, c'est les contradictions qu'il y a dans les accusations qui ont été portées contre Jésus. Parce qu'en fin de compte, Jésus, il est condamné pour avoir prétendu être le roi des Juifs, dans un sens vraiment politique. Alors, ce qui n'était pas le cas en réalité. Mais dans le même temps, on voit la foule réclamer sa mort. Et en fait, implicitement, cette foule, elle lui reproche de ne pas avoir été le roi des Juifs qu'elle attendait, conquérant, victorieux, qui aurait mené la rébellion contre Rome. Et d' ailleurs, sur l'incitation des prêtres, des pharisiens, la foule, elle a demandé la libération d'un homme, Barabbas. Et cet homme, on pense que c'était vraisemblablement quelqu'un qui s'opposait à Rome, justement, qui avait mené une sédition contre Rome. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est la souffrance. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Marc, il veut qu'on comprenne que notre roi, il a d'abord été un roi souffrant. Le roi serviteur. Et donc, c'est vraiment ce qu'on va voir ce soir. Donc, on a le décor qui est posé. Jésus l'avait annoncé à ses disciples, ce qui allait arriver. Les disciples ne comprenaient pas. Et là, on est à l'apogée, au point culminant de l'évangile selon Marc. Donc, voilà quel va être le déroulé. On va lire le passage. Alors, j'ai découpé ce qu'on va voir ce soir, je l'ai découpé en deux parties. Donc on va lire, on va analyser un peu le texte, essayer de bien le comprendre. Je vais vous donner un petit peu l'idée centrale qui figure sur les feuilles que vous avez reçues. On va faire un peu, on va connecter ça, on va avoir une réflexion théologique, on va connecter ça avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ de manière un peu plus globale. Puis on va réfléchir à des applications pour nos vies. Et donc pour commencer, on va prendre donc au chapitre 15, les versets 16 à 32, si quelqu'un veut bien le lire.
Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors, ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils le clouèrent sur la croix, Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Eh, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même aussi, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi. Ils se disaient entre eux, dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. Lui, le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi.
Si. Donc là, on commence en fait par ce que je pourrais appeler l'acte 1. Et cet acte 1, c'est les moqueries des païens. Alors j'utilise le mot païen dans le sens de non-juif. Donc c'est les versets 16 à 20. On voit les soldats qui emmènent Jésus dans la cour du palais de Pilate, hein, le prétoire. Et puis on assiste à une mise en scène malsaine, mais qui, derrière laquelle il y a quand même une ironie amère. En fait, les soldats, ils ont retenu qu'une chose de la condamnation, c'est que ce Jésus, ce rabbin, il va être crucifié pour avoir affirmé être le roi des Juifs. Et on les voit donc vêtir Jésus d'un habit de couleur pourpre, qui était le symbole du pouvoir dans l'Antiquité romaine, et en particulier, particulièrement qui était porté par l'empereur. Et puis ensuite, on voit une scène où les soldats, ils exercent des violences, ils se moquent de lui, ils l'insultent. Et donc, tout ce qu'on va voir à partir de là, c'est des choses qui ont été prédites dans les Écritures. Et on va commencer avec le psaume 22, qu'on va reprendre plusieurs fois ce soir. Entre parenthèses, le psaume 22, les manuscrits les plus anciens qu'on a, ils datent d'au moins 3 siècles avant Jésus-Christ. Donc on va prendre juste le verset 7. Alors sur vos feuilles, vous voyez, j'ai mis verset 6 entre parenthèses parce qu'il y a des décalages selon les traductions de Bible. Donc si vous avez une Bible Darby ou une Bible Second 1910, il se peut que ce soit le verset 6 et pas le verset 7. Donc, si vous avez une Bible récente, ce sera le verset 7. Je vais le lire. Mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Et en fait, dans ce verset, ce que je voudrais souligner, c'est le terme humanité, la honte de l'humanité. Et on va le voir ce soir, hein. Effectivement, Jésus, il va vraiment être humilié, tant par les juifs que par les non-juifs. On voit aussi les soldats qui font une espèce de parodie, qui disent « Salut, roi des Juifs ». Et ça, en fait, c'est un renvoi au salut militaire qui était adressé à l'empereur, hein, le fameux « Ave César ».« Salut, César ». Et en fait, il y a une symbolique très forte, parce qu'ensuite, on voit les soldats qui enlèvent cet habit de pourpre qu'ils ont mis sur Jésus, qui lui remettent son vêtement. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que celui qui est véritablement le roi et qui mérite l'habit le plus glorieux, en fait, s'est déjà dépouillé. Il s'est dépouillé volontairement de sa gloire. Et bientôt, on va voir même les soldats qui vont aller jusqu'à tirer au sort sa tunique. Et c'est quelque chose de très fort, parce que dans le contexte de l'époque, la tunique, c'était vraiment tout le bien le plus précieux pour le peuple, hein, pour les gens qui n'étaient pas dans l'aristocratie. C'était vraiment un bien extrêmement précieux, la tunique. Ils vont même lui ôter cette tunique en lui retirant tout ce qui restait de dignité. Ensuite, on va voir Jésus qui va marcher vers la croix. Donc on entame ce qu'on pourrait appeler l'acte 2. C'est cette marche vers la croix et puis la crucifixion en elle-même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans l'évangile de Jean, on voit que Jésus a bel et bien porté sa croix avant que ce passant, ce Simon de Cyrène, soit réquisitionné pour la porter. Et Marc, lui, il nous mentionne pas ça. On le voit tout de suite passer à Simon de Cyrène qui porte la croix. Et la raison, c'est probablement qu'il veut vraiment mettre l'accent sur l'état d'épuisement physique de Jésus. Et on l'avait vu la semaine dernière, il a subi la torture par le fouet. Et la torture par le fouet, à l'époque, dans ce contexte-là, était extrêmement violente. C'est une peine qui était réservée aux esclaves et aux pires criminels, comme la croix d'ailleurs. Et donc on voit que celui qui soutient tout par sa parole puissante, dans son humanité, il n'a même plus les forces de porter cette croix. Alors, quand on dit porter la croix, c'est la barre horizontale, hein, il ne porte pas l'intégralité de la croix. Et il n'a même plus la force de ça. Et Marc, il va nous préciser aussi le nom de ce passant, Simon de Cyrène, et s'il le fait, c'est pareil, il a une bonne raison. On a même le nom de ses fils. En fait, c'est probablement des personnes qui sont devenues des disciples, et ils étaient sans doute vivants et connus des destinataires de Marc. Quand Marc a écrit son évangile, c'était des gens qui étaient connus de ses destinataires. Et d'ailleurs, on a une mention d'un Rufus dans Romains 16, verset 13, c'est peut-être un des fils de Simon de Cyrène. Et en 1941, donc ça c'est pour la petite anecdote, on a découvert dans la vallée du Cédron un ossuaire. Il y avait une inscription qui mentionnait Alexandre de Cyrène, fils de Simon. Donc, ce qui était quand même les données bibliques. Donc, si Marc il indique la présence de ce passant, c'est surtout pour former un contraste avec l'absence des disciples. Et ça, c'est quelque chose qui va être assez criant ce soir, c'est que les disciples n'apparaissent pas dans le récit. En fait, Marc ne va pas les évoquer. Jésus est vraiment littéralement abandonné par les siens. Marc a vraiment voulu mettre l'accent sur cette solitude de Jésus dans cette situation. Ensuite, arrivé à Golgotha, on voit les soldats proposer du vin qui est mélangé à de la myrrhe à Jésus, et Jésus va le refuser. Donc d'après la tradition, en fait, c'était un vin fort qui était mélangé avec plusieurs substances, et qui était destiné à faire office de narcotique, en fait. C'était pour anesthésier un peu le condamné avant de le crucifier. Et en fait, le Seigneur refuse ce narcotique. Il veut vivre pleinement le supplice et il va rester lucide et maître de lui-même jusqu'au bout. Et en réalité, même s'il refuse de boire ce vin, c'est parce qu'il s'apprête à boire la coupe de la colère de Dieu. C'est le Père lui-même qui va frapper le berger. Ensuite, il y a les soldats qui le crucifient. Donc, je le rappelle, c'est comme je l'ai déjà dit, hein, c'est un châtiment qui était réservé aux pires criminels, qui était réservé aux esclaves, aux insurgés. Et on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, ces bourreaux se partagent ses vêtements. Et là, on va pouvoir lire le psaume 22, les versets 17 à 19, si quelqu'un veut bien le lire.
Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit.
On le voit, tout s'accomplit conformément à ce qui avait été annoncé. Donc là, il est 9h du matin, la troisième heure, et Marc mentionne l'inscription sur la croix qui rappelle le motif de sa condamnation. Encore une fois, Jésus est le roi des Juifs. Donc, triste ironie parce que Jésus, encore une fois, n'a jamais prétendu à la dimension politique de ce titre de roi des Juifs. Il n'a jamais remis en cause l'autorité romaine. Et pourtant, dans son évangile, Marc, d'un autre côté, nous a bien montré que Jésus était le Messie véritable, le roi de la lignée de David. Dans un sens spirituel, Jésus est vraiment le roi légitime des Juifs. Mais si, au lieu de siéger avec puissance sur le trône, on le voit crucifié entre deux brigands. Alors, le terme brigand ici, c'est dans le grec, c'est lestas, qui se traduit littéralement voleur ou bandit. Mais on sait que les Romains, on a des écrits qui montrent que les Romains l'employaient aussi pour désigner vraiment les rebelles qui s'opposaient à Rome. Et ça colle bien avec le châtiment qui est subi, la crucifixion. Et probablement que ces deux bandits qui sont donc loués à sa droite et à sa gauche, c'est peut-être des complices de ce Barabbas qui a été relâché auparavant par Pilate. Et donc c'est l'accomplissement encore d'une prophétie de Ésaïe. D'ailleurs, il y a certains manuscrits même qui le précisent au verset 28. On peut le lire dans Ésaïe 53 au verset 12, si quelqu'un veut bien le lire.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.
Voilà. Il a été compté au nombre des malfaiteurs ou des criminels, selon les traductions. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur la fin du verset 27, que ce soit dans le français ou dans le grec d'ailleurs, elle est identique à un autre passage de Marc. C'est la demande qu'ont formulée Jacques et Jean dans Marc 10, 37, quand ils ont dit « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. » Et comme Jésus leur a répondu, hein, ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient. Parce que la gloire et l'exaltation du Fils passaient par la croix. Le sort le plus terrible qui soit. Et en même temps, cette croix, elle est véritablement glorieuse. Elle accomplit la volonté du Père. Il y a une sorte de paradoxe un petit peu, parce que sur cette croix, c'est là où va tomber le jugement divin, mais en même temps, le Fils a l'approbation du Père, puisque c'est le plan Leur plan conçu de toute éternité qui s'accomplit, et Jésus accomplit la volonté du Père en se laissant couper sur cette croix. Ensuite, acte 3, les moqueries des Juifs. Ça, c'est les versets 29 à 32. Après avoir subi les moqueries des non-Juifs, on l'a vu, avant la crucifixion, Jésus maintenant il subit les moqueries de la foule des Juifs, et y compris les chefs, les prêtres, les spécialistes de la loi. Et donc, vraiment, on voit ce moment de la crucifixion qui est encadré par les moqueries et les insultes. Il y a tout le monde qui vote son commentaire. Il y a une humiliation vraiment profonde. Au verset 29, on voit les passants qui reprennent les fausses accusations qu'on avait vues dans Marc 14 et qui disent « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait par la main de l'homme et en 3 jours j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et alors, nous on sait que quand Jésus parlait du temple, il parlait du temple de son corps, mais on les voit même qui déforment ses propos, bien évidemment. Et en réalité, encore une fois, les passants, la foule, ils accomplissent, sans le savoir, les paroles du psaume 22. Donc cette fois, on peut prendre les versets 8 à 9, si quelqu'un veut bien le lire.
Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime.
Et on voit aussi encore une ironie cachée hein, derrière les paroles des prêtres et des scribes au verset 31 quand ils disent « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Et au verset 32 quand ils disent que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est bel et bien pour sauver les autres que notre Seigneur il a choisi ce chemin et qu'il se laisse rouer sur cette croix. Et en réalité, s'il voulait, il pourrait descendre, il pourrait même appeler les armées du ciel, et il ne le fait pas. Et on peut regarder ce que les Écritures nous disent. Donc je suis désolé, on va faire pas mal de va-vient avec l'Ancien Testament. On peut prendre Ésaïe 53, verset 5.
Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Merci. Vous voyez les bergers d'Israël, soi-disant bergers d'Israël. Ils avaient les Écritures, ils avaient les prophéties. Et on voit pourtant leur endurcissement. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'étude que notre frère Jean avait animée hein, avec la parabole des mauvais vignerons. En fait, on voit que malgré toutes ces prophéties, malgré tous les accomplissements, malgré les miracles de Jésus dont ils ont été témoins, ils le font périr sur la croix. Et ils le savent bien. Mais en réalité, donc, ceux qui se moquent, qui pensent avoir remporté une victoire ici, ils sont loin d'avoir saisi ce qui se passe. Et donc, le roi qui mérite toutes les louanges, la révérence, l'adoration, on le voit donc subir les moqueries des hommes et le jugement divin. Et le comble de l'humiliation, c'est que même les deux brigands, qui sont de part et d'autre, ils l'insultent. Alors on sait qu'un des deux va se repentir et se convertir, mais ça, Marc ne s'attarde pas là-dessus. Alors on pourrait aussi prendre le psaume 69, qui évoque les moqueries. Mais on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas forcément le temps ce soir. Il y a énormément de textes en réalité qui renvoient à cet événement. Mais en tout cas, c'est un psaume où on voit comment le Seigneur allait devenir comme un étranger pour son propre peuple. Et donc on voit vraiment cette convergence des textes et des prophéties bibliques. Et encore une fois, ça nous montre que Dieu est souverain et que tout est sous son contrôle dans les moindres détails. Et si on a vu beaucoup de moqueries, bon, nous, dans notre culture occidentale, ça nous paraît assez dur, mais on a une culture qui est assez individualiste. Il faut bien voir que dans les cultures du Proche-Orient ancien, c'est des cultures collectives, c'est encore pire, c'est vraiment un déshonneur terrible, accablant, c'est le pire possible. Hein. On est vraiment au pire du pire en termes d'humiliation et de déshonneur. Cela étant, le Messie, donc qui a largement démontré sa puissance et son autorité hein, au cours de l'évangile de Marc, avec des miracles parfois phénoménaux, on le voit ici qui reste silencieux. Depuis l'étude qu'on a eue la semaine dernière, les dernières paroles qu'il a prononcées devant Pilate, il ne dit plus un mot. Il est silencieux. Et en fait, il accomplit encore une fois une prophétie, celle d'Ésaïe 53, verset 7. On l'avait lu la semaine dernière, si vous voulez, je vais vous la relire. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Pour finir sur ce premier passage, je voudrais revenir sur ce mot qui est revenu 3 fois, comme on l'a vu, c'est le mot roi, même l'expression roi des Juifs. Hein. On l'a vu au verset 18, 26 et 32. Et donc, comme je disais, Marc, il ne fait rien par hasard. Et s'il insiste sur ce mot, c'est pour une bonne raison, pour nous montrer que Jésus est bien le roi, le Messie, le roi de la lignée de David, on en a déjà parlé lors de nos études précédentes. Mais ce n'est pas seulement le roi légitime des Juifs. On sait que derrière, c'est même le roi des rois, celui qui a toute autorité sur la création. Et c'est pareil, on l'a vu dans l'évangile de Marc, il l'a prouvé par ses miracles. Et en fait, là, Marc, il appuie là-dessus pour nous montrer que vraiment, ce roi, c'est un roi dépouillé, un roi souffrant, un roi humilié, qui est moqué par les païens, moqué par les Juifs. Et en fait, si on se rappelle à qui Marc écrit, eh ben on sait que c'est des chrétiens, probablement non-juifs, et persécutés. Et donc pour eux, en fait, là, il y a vraiment un encouragement formidable. Marc, il leur montre que leur roi, il est passé par les mêmes souffrances qu'eux. Il a ouvert le chemin, il a vécu ce qu'ils vivent. La honte, l'humiliation, les violences et les moqueries. Et donc pour cette première section, l'idée centrale que je vous propose de retenir, c'est que conformément aux Écritures, Jésus, donc le roi, il est livré par les Juifs, crucifié de la main des païens, et il est compté parmi les criminels. Il est humilié, méprisé, et il traverse en silence les souffrances de la croix. Ensuite, pour ce qui est de la réflexion théologique, hein, bon là on est vraiment au cœur de l'Évangile, on le voit, le Christ dépouillé de tout, qui offre sa vie sans un mot, et on voit Marc qui a appuyé sur cette honte, et il ne s'attarde pas forcément sur les détails de la souffrance physique du Seigneur, hein, finalement le récit est quand même assez sobre, mais en fait on sait qu'il y a un arrière-plan derrière avec un enjeu cosmique. Ici, Jésus porte vraiment à son comble tout ce qu'il a enseigné et annoncé à ses disciples. On voit le roi donc qui s'humilie, qui s'abaisse jusqu'à la mort de la croix pour le salut du plus grand nombre. C'est l'accomplissement du plan de Dieu, il l'avait annoncé, donc je vous relis Marc 10 au verset 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà la mesure de son amour immense. Et ça nous conduit maintenant aux applications que vous avez sur vos feuilles. Ma première application, en fait, elle n'est pas de moi, c'est l'apôtre Paul qui nous la propose. Et c'est dans Philippiens 2, au verset 5 à 8, si quelqu'un veut bien le lire.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Merci. Donc on voit Paul qui passe la barre très haut en nous disant d'avoir les sentiments ou certaines traductions qui disent que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et ça me mène à notre deuxième application, parce que dans le même temps, est-ce qu'on a conscience de notre faiblesse ? Comme je l'ai dit, les onze apôtres, ils sont totalement absents du récit. Et pourtant, ce jour précis, ils auraient littéralement pu porter la croix du Seigneur à la place de ce passant, ce Simon de Cyrène. Mais ils n'étaient pas là. Donc, n'ayons pas l'orgueil de croire qu'on aurait fait mieux parce qu'on trébuche tous de bien des manières. Et le Seigneur, il a été aidé que par un inconnu. Il a dû faire face seul aux souffrances de la croix. Mais nous, on a besoin de lui. On ne peut pas affronter les souffrances, les épreuves seuls. On a besoin de lui pour porter notre croix et on a besoin les uns des autres pour marcher dans la vie chrétienne. Et enfin, la troisième application, elle est liée aussi aux deux précédentes, c'est qu'on ne doit pas s'étonner de la haine et de l'opposition auxquelles on peut faire face en tant que chrétien. Cette haine et cette opposition, c'est le prolongement de la haine qui s'est exprimée contre Jésus-Christ. Par conséquent, soutenons-nous les uns les autres et soutenons aussi les frères et sœurs persécutés. Les frères et sœurs qui souffrent d'injustice. Maintenant, je vous propose de poursuivre notre lecture. On va prendre les versets 33 à 41, si quelqu'un veut bien les lire.
La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et de Jose, et Salomé, qui le suivait, le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem.
Merci. Là, nous arrivons à ce qu'on pourrait appeler l'acte 4. Il est midi et c'est l'heure des ténèbres. Et en fait, au verset 33, donc il y a Marc qui nous précise que ces ténèbres s'abattent sur tout le pays et durant 3 heures. Donc la question, c'est pourquoi il nous précise cela et pourquoi ces ténèbres. En fait, il y a vraiment une allusion à plusieurs épisodes de l'histoire du peuple de Dieu, parce que les ténèbres sont notamment un marqueur du jugement divin. Et on va les retrouver, par exemple, dans plusieurs passages qui évoquent le jour de l'Éternel, le jour de sa colère. Alors, on ne peut pas les prendre, on n'a pas le temps, mais je peux vous en citer quelques-uns. Ézéchiel 30, verset 3, Joël 2, verset 2, Sophonie 1, verset 15, et il y en a plein d'autres. Mais cela étant, il y a un passage sur lequel on va s'attarder quand même. C'est dans le livre de l'Exode. À l'époque, le peuple d'Israël est dans l'esclavage en Égypte. Et donc Dieu va envoyer Moïse pour conduire le peuple hors d'Égypte. Bien sûr, le pharaon va s'y opposer. Et suite à ça, il y a une série de fléaux qui vont s'abattre sur l'Égypte. Et donc, on peut prendre Exode au chapitre 10 et on va lire les versets 21 à 23, si quelqu'un veut bien les lire. Donc, Exode 10, 21 à 23.
L'Éternel dit à Moïse, étant ta main vers les cieux, il y aura sur le pays d'Égypte des ténèbres. Et on touchera de la main les ténèbres. Et Moïse étendit sa main vers les cieux, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre, et nul ne se leva du lieu où il était pendant 3 jours. Mais pour tous les fils d'Israël, il y eut de la lumière dans leur habitation.
Merci. Donc ces ténèbres, là, c'est le 9e fléau dans l'Exode. Ils font donc partie du jugement divin qui s'abat sur l'Égypte. Et c'est des ténèbres qui surviennent juste avant le fléau ultime, quand Dieu va frapper dans sa colère les premiers-nés du peuple égyptien. Mais dans le même temps, quand il va aussi épargner les premiers-nés du peuple hébreu, parce que chaque famille juive aura sacrifié un agneau sans défaut, mis son sang sur les montants et le linteau des portes de leur maison. Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, je vous dis à ce que nous en avait parlé lors de son étude, c'est la première Pâque juive, c'est le point vraiment culminant de l'Exode, quand Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Mais tout ça, donc, c'est ce qu'on appelle un type, une préfiguration de l'œuvre de Jésus. Et cette préfiguration, elle englobe les ténèbres. Sauf que dans Marc, les ténèbres ne vont pas tomber pendant 3 jours sur l'Égypte, mais pendant 3 heures sur la Judée. Et en fait, donc, c'est une indication très tangible du jugement de Dieu. Et même, ça va peut-être vous étonner, mais il y a un double jugement. Le premier, en quelque sorte, c'est un jugement moins important, secondaire. Il concerne les chefs religieux du peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que si vous rappelez bien, dans Marc, au chapitre 8, ces chefs religieux demandaient un signe du ciel. Et on avait vu Jésus, vous connaissez leur hypocrisie, le leur refusait. Et en fait, maintenant, il y a un véritable signe du ciel qui se produit, mais c'est un signe qui entérine leur aveuglement et leur endurcissement. Et là, ils sont littéralement dans les ténèbres. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ces ténèbres, c'est avant tout la marque du jugement de Dieu, parce que ça se produit juste avant que le Fils de Dieu expire, lui qui offre sa vie en sacrifice, qui verse son sang pour sauver un peuple nombreux, pour nous libérer de l'esclavage du péché. On en reparlera plus loin. Donc c'est un marqueur de la colère divine. Et si vous vous rappelez, on avait aussi vu la transfiguration en Marc 9. On avait eu un aperçu de la gloire de Dieu en Jésus-Christ, élevé sur une haute montagne. Et donc ici, on voit un contraste. On voit le roi élevé, mais sur une croix et dans les ténèbres, alors qu'il rayonnait de lumière dans Marc 9. On a la lumière du monde qui est environnée de ténèbres. En fait, Dieu le Père détourne sa face de son Fils bien-aimé. C'est le jugement. Et c'est les versets 34 à 36, il est 3 heures d'après-midi, la 9e heure, et Jésus a prononcé des paroles qui sont directement issues du psaume 22 au verset 2, si quelqu'un veut bien le lire.
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et te laignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?
Merci. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus s'est chargé de, des péchés de ses rachetés, et il subit le jugement divin. Et là, ce cri est vraiment déchirant parce que le Dieu Saint détourne sa face de son Fils. Jésus boit la coupe du jugement divin. Il est abandonné pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et on voit parmi les moqueurs hein, qui entendent ces paroles, qui ne comprennent pas. Et encore une fois, ils vont accomplir une prophétie. Il y en a un qui va tendre une éponge imbibée de vinaigre à Jésus. Alors, ce vinaigre, c'est une boisson bon marché. C'est un vinaigre qui était dilué avec de l'eau et qui est utilisé par les soldats pour se désaltérer notamment. Et en fait, celui qui tend l'éponge, en fait, il est en train de dire « Laissez-moi lui donner à boire, donnons-lui un petit peu de répit, on va voir si Élie vient ou pas. » Parce qu'ils n'ont absolument pas compris ce que Jésus disait. Donc on peut lire un passage prophétique qui en parle, qui évoque ce qu'on a jusqu'à présent. C'est dans le psaume 69, les versets 20 à 22. Donc, psaume 69, versets 20 à 22.
Ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant moi, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la piété mais en vain, des consolateurs et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre.
Merci. Donc du fiel ou du poison dans ma nourriture, ça fait référence aux narcotiques qu'ils voulaient donner à Jésus avant la crucifixion et donc là on a le vinaigre aussi au verset 22. Et là on arrive au dénouement. Jésus pousse un grand cri et il expire. Et là, il va se produire deux choses qui sont spectaculaires et révélatrices. La première chose qui se produit, c'est qu'au moment où Jésus expire, on a le voile du sanctuaire qui se déchire en deux de haut en bas dans le temple, au verset 38. Et à ce propos, d'ailleurs, on peut lire le livre du Lévitique au chapitre 16, versets 2 à 3, si quelqu'un peut le prendre. Donc Lévitique 16, versets 2 à 3. Donc, c'est les règles relatives à l'accès au lieu très saint.
L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste.
Merci. Ensuite, il y a des rites de purification et d'expiation avec des sacrifices. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit les conditions très très strictes qu'il fallait respecter pour enchir ce voile une fois par an, seulement le grand prêtre. Et s'il ne respectait pas ces conditions, il mourrait. Et en fait, Marc, là, il est en train de nous montrer que cet événement, c'est la preuve ferme et manifeste du caractère définitif du sacrifice de Jésus. Ce voile, en fait, séparait l'homme de la présence de Dieu, il est déchiré. Et en plus, c'est une précision intéressante, c'est qu'il est déchiré de haut en bas. Alors, c'est possible, ici, il veut indiquer que c'est Dieu lui-même, dans son décret, il ôte cette frontière qui nous séparait de lui. Et à ce propos, on peut lire Hébreux 10, les versets 19 à 20. Donc, Hébreux 10, versets 19 à 20.
Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair.
Merci. Donc le corps de Jésus a été brisé et le voile est déchiré. Et derrière ça, il y a peut-être aussi un autre jugement, encore une fois, c'est que le système sacrificiel qui existait dans l'Ancienne Alliance n'a plus lieu d'être. Et donc les chefs religieux corrompus, hein, ces mauvais vignerons, comme on l'avait vu dans la parabole, perdent en fait, en quelque sorte, définitivement leur rôle. Et on verra ce jugement s'accomplir de manière vraiment manifeste en l'an 70, quand le temple sera tout bonnement détruit. Donc ça, c'était le premier élément spectaculaire. Le deuxième, c'est au verset 39, c'est la réaction du centurion romain. En fait, il entend le dernier cri de Jésus, il le voit mourir, Et il réagit vraiment de manière très, très, très étonnante. Et contrairement à Matthieu, on n'a pas le tremblement de terre, des morts qui ressuscitent, etc. Marc vraiment évoque juste ce cri de Jésus. Alors peut-être que c'est pour indiquer son caractère surnaturel, parce qu'il faut bien voir qu'après tout ce temps sur la croix, l'épuisement, la suffocation, c'est absolument surnaturel que Jésus ait poussé un tel cri. Il y en a certains qui ont dit que c'était un cri de victoire, c'est pas précisé, mais quoi qu'il en soit, Jésus il meurt vraiment au moment fixé, et cet officier, ce centurion qui a assisté à toute cette journée, on le voit prononcer des paroles qui résonnent avec tout l'évangile de Marc, il dit « cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Alors, je fais une petite parenthèse à propos du grec, parce qu'il y a des spécialistes qui débattent là-dessus. L'expression « fils de Dieu », il n'y a pas d'article défini. Donc, on pourrait traduire simplement « fils de Dieu » ou « un fils de Dieu ». Et donc, il y a certains qui disent « oui, mais en fait, c'est un Romain, donc il avait juste en tête, c'était la notion de divinisation qu'on trouve dans la culture gréco-romaine. Il est en train de nous dire, après une telle mort, Jésus mérite vraiment d'être divinisé, un peu comme on divinisait, par exemple, l'empereur ou le fils de l'empereur. » Moi, à titre personnel, j'ai quand même tendance à penser que c'est vraiment une confession de foi. Et pourquoi ? Parce que dans Luc, par exemple, on a d'autres paroles de ce centurion qui nous sont rapportées. Il nous est dit que le centurion rendit gloire à Dieu. Donc je trouve que ça appuie quand même dans le sens d'une confession de la part de cet officier. Mais au-delà de ça, pour Marc et pour ses lecteurs d'ailleurs, ce qui est important, c'est vraiment le sens et la portée de ces paroles dans la bouche d'un non-juif. Pour eux, c'est très clair. Si Jésus, il est bel et bien le vrai roi messianique, c'est aussi le Fils de Dieu, Dieu incarné. Et c'est sa mort qui manifeste ça aux yeux de certains témoins présents. On a la foule juive d'un côté qui rejette Jésus, et on a un païen de l'autre côté qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Ces deux signes qu'on vient d'évoquer, en fait, Marc il les utilise pour nous affirmer que ce moment dramatique, en fait, c'est une victoire. Et si vous vous rappelez bien, au chapitre 8, si vous étiez présent, on avait vu Pierre, donc un juif, qui avait confessé que Jésus était le Messie de Dieu, son envoyé, le roi libérateur. Et ici, par l'intermédiaire d'un païen, on a Marc qui nous montre que Jésus, ce Jésus qui meurt sur la croix, c'est le Fils de Dieu. Et en fait, là, la boucle, elle est bouclée depuis Marc 1. On peut relire Marc 1, verset 1, si quelqu'un peut le prendre.
Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Merci. Donc on y est, c'est l'accomplissement du mystère de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Lui qui est le Christ, Jésus-Christ, Christ c'est le Messie, et le roi, et le Fils de Dieu. Et donc en fait, là on a vraiment cet aboutissement, on voit dans cette œuvre de Jésus à la croix, cet acte d'une portée vraiment spirituelle, cosmique, qui dépasse notre entendement, ça nous dépasse totalement. Et puis on finit en fait cet événement avec les témoins. La séquence, elle se clôture avec des témoins inattendus, surtout pour un récit de l'Antiquité. C'est les femmes. Les femmes, c'est ces femmes qui suivaient, qui servaient Jésus en Galilée, puis d'autres femmes qui sont montées avec lui à Jérusalem. Et ces femmes, c'est des femmes dont la place et la parole, elles avaient peu de valeur à l'époque. Et pourtant, elles vont bientôt avoir un rôle vraiment crucial. On va le voir la semaine prochaine. Mais on voit aussi qu'elles sont fidèles. Leur présence constante, leur attachement au Seigneur, ça fait vraiment un contraste, encore une fois, avec les 11 apôtres qui sont toujours absents du récit de Marc. Donc pour Marc, les témoins clés de la mort de Jésus et les disciples les plus fidèles, c'est finalement un soldat païen et des femmes, des personnages que la culture juive de l'époque ne valorisait pas du tout. Donc encore une fois, on voit les récits de la parole de Dieu qui prennent le contre-pied des cultures et des traditions humaines. Le message central, l'idée clé un peu que je vous propose de retenir sur ce passage, c'est que cet homme, donc ce Messie qui meurt abandonné du Père, est vraiment le Fils de Dieu, qui offre sa vie en rançon pour sauver un grand nombre. Et forcément, ça va nous amener à parler plus en détail de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc là, la réflexion théologique, c'est vraiment une présentation de l'Évangile. À la croix du calvaire, Dieu nous offre gratuitement son pardon, sa miséricorde, mais il ne le fait pas au détriment de sa justice. Pourquoi ? Parce qu'il fait tomber le jugement qu'on méritait sur son propre Fils. Si je reprends un petit peu les notions qu'il y a derrière ce que je viens de dire, la justice, c'est quoi ? La justice, ce serait de recevoir ce qu'on mériterait. C'est la juste sanction pour nos fautes, pour nos péchés, la mort et la perdition. Jésus, il a subi cela à notre place. C'est la justice. La miséricorde, c'est de ne pas recevoir ce qu'on méritait, cette juste sanction. Pourquoi ? Jésus l'a subi à notre place. Et c'est la miséricorde. Et la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Le salut et la vie éternelle. Pourquoi ? Jésus a vécu la vie parfaite qu'on ne pouvait pas vivre, il est mort à notre place et il nous offre la vie éternelle. La justice, la miséricorde et la grâce. Et en fait, on obtient la réconciliation avec Dieu, une nouvelle identité en Christ et le rétablissement de ce pourquoi on existe, c'est-à-dire une relation avec lui, une vie qui le glorifie, une relation avec lui dans la joie. Et en fait, on obtient ça comment? En criant à Dieu. Et là, je reviens à l'Exode. Si vous vous rappelez, les Israélites, ils étaient en esclavage en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont crié à Dieu. Et Dieu les a entendus et il leur a répondu. Alors, on va passer aux applications. Alors, il y a une application qui ne figure pas sur les feuilles que je vous ai distribuées. C'est un bonus, on va dire. C'est ces ténèbres qu'on a vues, cette souffrance que Jésus traverse, ça nous donne une idée de ce que méritent nos péchés. Donc, simplement, je voudrais poser la question, est-ce qu'on a vraiment conscience, de la gravité de nos péchés, même les moindres d'entre eux, et de ce que Jésus a enduré et a souffert pour nous à cause de ses péchés. Ensuite, l'application suivante qui figure sur vos feuilles, c'est nous rappeler le privilège qu'on a de découvrir ce message dans lequel même les anges désirent plonger leur regard. Donc cette application, c'est l'adoration et la reconnaissance, tout simplement, pour notre salut en Jésus-Christ. En fait, on a vraiment un amour et une grâce qui sont manifestés ici et qui sont insondables. Deuxième application, c'est une invitation à prendre position. Parce que dans son essence même, le récit, on ne peut pas dire qu'on est neutre, ce n'est pas possible. Et on n'est pas meilleur que cette foule, on n'est pas meilleur que ces passants qui se sont moqués du Seigneur. Et en fait, d'ailleurs, s'ils se moquent du Seigneur, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rester indifférents. Il y a quelque chose qui les dérange dans la personne de Jésus. Et à un moment, il y a une position à prendre. Soit on demeure endurci comme ces moqueurs, soit on confesse Jésus comme fils de Dieu, comme sauveur et comme Seigneur. Et ça me mène à notre troisième application. Approchons-nous avec confiance de Dieu, parce que c'est lui qui nous ouvre le chemin, c'est lui qui déchire le voile, il n'y a rien à faire, on n'a rien à ajouter. Et le sang de Jésus, en fait, nous donne un libre accès au sanctuaire céleste. C'est Dieu lui-même qui nous introduit dans sa présence. Et c'est toujours vrai pour nous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ce message est nouveau pour quelqu'un parmi nous ce soir, ou si simplement quelqu'un est touché dans son cœur par l'œuvre du Seigneur. Mais voilà, j'invite ceux qui seraient vraiment touchés par ce message à prier pour que Dieu les éclaire et les aide à comprendre ce salut. Bien sûr, je me tiens disponible à la fin pour discuter et prier si quelqu'un le souhaite. Et en fait, on va voir la semaine prochaine que ça s'arrête pas là, cet événement, cette crucifixion. En fait, c'est indissociable d'un autre événement, c'est la résurrection. Je vais citer l'auteur du Seigneur des Anneaux, Tolkien, qui avait inventé un mot pour ce type d'événement. Il parlait d'une e-catastrophe. Et donc, étymologiquement, c'est une bonne catastrophe. C'est ce moment où tout semble perdu à vue humaine, lorsque les ténèbres elles sont les plus profondes. Et c'est là, en réalité, que le mal est vaincu et que le miracle se produit. Et on peut prendre le psaume 22, dont on a déjà lu plusieurs passages. On va voir qu'il ne se finit pas sur une note sombre. On peut prendre les versets 22 à 23, si quelqu'un veut bien les lire. Donc, le psaume 22, versets 22 à 23.
Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée.
Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et donc on verra la semaine prochaine que oui, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc c'est la fin de notre étude. Si quelqu'un peut-être a des questions, si vous avez des remarques, voilà, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de textes qu'on n'a pas lus. Donc n'hésitez pas si vous avez des remarques ou des questions.
Mais surprise de l'aveuglement des pharisiens. Mais bon, après, quand on ne veut pas croire, on ne veut pas croire.
C'est le cœur.
Mais surtout, comme tu dis, je ne sais pas moi si j'avais vécu à cette époque, comment j'aurais réagi. Peut-être qu'elle était comme la foule.
Mais ça nous pousse à rester humble.
Oui, oui.
Ils ont trouvé des explications physiques ou rationnelles des ténèbres pendant 3 heures. Il y a des écrits,
alors il y a des. Je n'ai pas creusé la question en détail. Je